Merci, merci chers amis de votre accueil dans ce lieu qui est toujours magnifique, peut-être pas assez grand en effet. Alors vous m'avez demandé de parler de l'espérance, qui est un sujet effectivement que j'ai traité dans mon dernier livre. Je voudrais essayer de vous montrer en peu de temps, parce que pour laisser la place aux questions, pourquoi l'espérance est quand même particulière à notre culture, au continent, comment elle a tendance à s'effacer et pourquoi nous y tenons. Alors, ça fait beaucoup de questions pour peu de temps, mais je vais tâcher de résumer, d'autant plus que je sais que je me trouve devant un public averti qui a déjà lu beaucoup de livres, certainement. Alors, comme vous le savez, chaque culture nourrit des mythes cosmogoniques, qui sont des histoires qui donnent un sens à l'univers. Et dans toutes les cultures, sauf la nôtre, c'est-à-dire la culture judéo-chrétienne, nous trouvons un temps qui a une forme circulaire. Et c'est à partir du monothéisme juif que la civilisation va s'engager dans un temps fléché, qui évidemment est quelque chose de tout à fait différent. Le Dieu unique, bon, appelons-le Yahvé, il a d'autres noms, tout-puissant, dirige l'histoire des hommes, et il la conduit vers un achèvement. Un achèvement, et cet achèvement sera glorieux et total. Le christianisme nourrit la même certitude. Rassurez-vous, je ne ferai pas de théologie, j'en serais bien incapable. Alors, parce que la mort et la résurrection du Christ ouvre une véritable histoire. Maintenant, nous nous trouvons chez les chrétiens, mais au fond, c'est la même histoire continuée. Donc, la mort et la résurrection du Christ ouvrent une histoire vers la transcendance, et c'est cela qui brise la circularité, un peu comme si vous avez une espèce de spirale qui, tout d'un coup, est, pour ainsi dire, crevée. Et quelque chose sort de cette spirale pour aller ailleurs, mettez-le ailleurs avec un grand A. Disons que l'introduction de Dieu avec un grand D, puisqu'il est unique, dans le temps, il vient dans le temps, et cette introduction relie le temps à l'éternité en projetant le temps en dehors de son cadre cyclique. On pourrait peut-être dire les choses comme ça. Augustin dit « Le Christ n'est mort et ressuscité qu'une fois ». Ça peut paraître trivial, mais ça ne l'est pas. C'est un événement fondateur qui met fin à la répétition éternelle, enfin, la répétition inarrêtable. Et dans la plupart des autres cultures, vous trouvez cette répétition. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors, le temps fléché, précisément, qui s'instaure là, suppose une possibilité d'amélioration du monde humain au fur et à mesure que l'histoire passe. Et par conséquent, c'est le temps fléché qui implique l'espoir ou l'espérance. Évidemment, les deux mots sont différents l'un de l'autre, les deux concepts sont différents. Bon, on parle ici de l'espérance pour inclure justement le caractère transcendant de l'espérance que l'espoir en principe n'a pas. Enfin, tout dépend comment on traduit les choses. Et donc, c'est le temps fléché qui va susciter l'émergence de la croyance au progrès. Mettons pour l'instant le progrès avec un petit p. Et par conséquent, c'est le temps fléché qui est le principal vecteur du développement intense de l'Occident, même sur le plan matériel, scientifique, technique, etc. L'apparition du temps fléché, quelque chose de tout à fait spécifique, singulier, il ne faut pas du tout croire que ça existait partout, loin de là. Donc l'apparition du temps fléché façonne des sociétés où l'on attend quelque chose. C'est tout à fait extraordinaire. On attend quelque chose. C'est-à-dire que le temps à venir est, pour ainsi dire, gorgé de promesses. Promesses au pluriel. Évidemment, ces promesses diffèrent selon les cas. Et le temps fléché, à partir du moment où il est posé, va rendre possible toutes sortes de types d'attentes, différents les uns des autres, toutes sortes de marches vers le meilleur. C'est précisément là-dessus que je voudrais insister. Alors, à l'époque des Lumières, l'attente du salut va se séculariser et le salut se transforme en progrès. Le temps fléché suit son cours, on est toujours sur le temps fléché, Mais en l'absence de transcendance, puisque la transcendance s'efface, eh bien, il inscrit son but dans un monde immanent. On va croire au progrès matériel et moral, mais ce qui était déjà le cas avant. Et on attend le bonheur sur la terre. On attend même un bonheur parfait. Je ne citerai pas Condorcet parce que ce n'est pas mon propos. L'idéologie du progrès n'est pas une invention de la modernité. C'est une substitution à l'amélioration chrétienne disparue. Et cette substitution permet, en l'absence de la chrétienté qui va s'effacer, de sauver le temps fléché. Vous voyez ? On garde le support du temps fléché. On en fait autre chose. Ce temps fléché va devenir à la fois immanent et impatient. Les deux allant ensemble, puisque les promesses du temps deviennent immanentes puisqu'il n'y a plus de transcendance, donc elles s'effacent, et en même temps, elles s'instaurent dans l'impatience puisque ce qui doit arriver ici-bas, ça doit arriver tout de suite. Enfin, pourquoi attendre, hein, puisqu'il n'y a plus d'extérieur. Alors, les théories du progrès sont bien connues, je ne vais pas insister là-dessus. Il y a des auteurs innombrables. Un élan d'espoir absolument extraordinaire anime la planète occidentale à partir du XVIIe, l'époque du début des Lumières, jusqu'au XXe siècle. Je dirais que, pour faire simple et trop simple, notre culture s'instaure dans... Ça commence chez les Grecs, tout commence chez les Grecs. Bon, je ne vais pas vous faire la liste de ce qui est pré-chrétien chez les Grecs, mais... On pourrait citer 25 choses tout de suite. Notre culture s'instaure dans la généalogie angoissante, Prométhée, Faust, Frankenstein. Et au fond, c'est aussi ça le progrès, l'amélioration. Ça n'est pas forcément toujours du Frankenstein, heureusement. Alors, ensuite, nous avons la déception du progrès moderne. C'est-à-dire que l'idée du temps fléché repose toujours donc sur une espérance et sur une croyance, mais après l'effacement de la croyance monothéiste, qui est en train de continuer et de poursuivre son effacement, eh bien, au départ, le progrès moderne a correspondu avec le développement de la technique. Il fallait bien remplacer Dieu. Ce qui ne va pas, évidemment, c'est quand on commence à le prendre en otage. Mais ça, le progrès s'est instauré là-dessus. Et une fois sécularisé... Eh bien, l'amélioration humaine s'entend en termes quantitatifs. C'est logique. Accumulation des produits du bien-être et du confort, augmentation de l'égalité, accumulation des bonheurs au pluriel. L'idée temporelle du progrès réclame de produire toujours plus d'égalité, toujours plus de liberté individuelle, toujours plus de suppression d'interdits au pluriel. Ou si vous préférez, pour faire encore trop simple, chose qu'on pourrait développer pendant des heures de cours. Dans la vision transcendante, il s'agissait d'espérer les fruits d'un comportement. Ici, il s'agit d'accumuler les produits d'une action qui porte elle-même son sens. Évidemment, la chose est très différente. Alors, on s'aperçoit bientôt que les finalités qu'on avait données au progrès, égalité, liberté, ne peuvent pas être déployées indéfiniment. Ou si vous préférez... C'est pas parce qu'on va développer indéfiniment la liberté qu'on sera plus heureux. Au contraire, il arrivera un moment de basculement où il y aura trop de liberté. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et donc, le bonheur, on s'aperçoit que le bonheur provient d'un équilibre et non pas d'une accumulation, d'où la difficulté. Le vide d'espoir qui est creusé par le moment contemporain est un double vide, c'est-à-dire que l'espoir s'est effiloché des deux côtés par où il passait. D'abord, il a évincé l'attente messianique, et puis ensuite, la croyance dans le progrès indéfini, avec un grand P, affiché par les Lumières, s'est effacée. S'est effacée à la fin de la première modernité, nous en sommes à la seconde modernité. Nous sommes au moment que Ortega y Gasset appelait le moment où nous sommes tombés de la hauteur des temps. C'est le début de l'effacement du progrès moderne, immanent et impatient. Et donc, le culte de l'avenir, d'une certaine manière, a fait son temps. On pourrait citer beaucoup de textes. Je n'en cite qu'un seul, un texte que j'aime énormément, qui a été publié, qui a été écrit, publié au début du XXe siècle, « La correspondance d'un coin à l'autre » de Ivanov et Gershenson, un livre russe. Ivanov dit à Gershenson...